Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Pour débattre de l'actualité autour de vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio à Jérusalem, cette commémoration de la Shoah, 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, avec un moment évidemment très puissant, très fort à Yad Vashem, le mémorial. Je voudrais juste qu'on entende un extrait ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard, une voix importante.
Si on m'aurait dit à ma libération qu'on tuerait de nouveau des hommes, des femmes et surtout des enfants parce que juifs, j'aurais dit non, il déraille, ça n'arrivera plus. Eh monsieur, c'est en France qu'on a tué le plus des juifs parce que juifs.
Benjamin Orenstein, un rescapé des camps, c'était ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard. Il a raconté sa déportation, son passage dans 7 camps différents et sa libération. Ne jamais oublier, des témoignages bouleversants, il y en a, mais il y en aura de moins en moins avec la disparition de ces rescapés. Et il y a cette venue de plus de 40 chefs d'État sur place. D'abord, allons sur cet aspect-là, Catherine Ney, par exemple, pour démarrer. On ira bien sûr sur ces commémorations, mais aussi sur le dossier iranien qui était vraiment en arrière-plan aujourd'hui.
Oui, c'est la première fois depuis les obsèques de Yitzhak Rabin qu'il y a autant de chefs d'État étrangers qui viennent en Israël. Et là, c'est pour, dire devant l'opinion publique mondiale qu'il ne faut pas oublier le passé, même pour faire une sorte, établir une sorte de guide, de digue. Oui, pour ne pas l'oublier. Et à un moment où l'antisémitisme revient. Dans tous les pays européens, notamment en Allemagne, où le directeur du mémorial du camp de Buchenwald dit que là, de plus en plus d'extrême droite, de gens d'extrême droite viennent et posent des tags pour nier l'importance de l'Holocauste. Et on sait aujourd'hui qu'un sondage le dit que 25% des moins de 38 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah.
Donc, un Français sur 6.
Un Français sur 6. Donc c'est important aujourd'hui, ce déplacement de tous les chefs d'État étrangers pour...
Et la place d'Israël aussi dans tout ça. La place d'Israël, le sens d'associer les deux, Charles Villeneuve, Mickaël Darmon, une manière de faire front commun contre l'antisémitisme et de redonner une place peut-être centrale à Israël dans tout ça.
Oui, mais moi, pour moi, la meilleure des pédagogies, si vous voulez, c'est peut-être le rassemblement des chefs d'État, peut-être les discours, mais ça n'est pas ça. En tout cas, personnellement, ce que j'ai vécu, notamment chargé, si vous voulez, sur TF1 de couvrir le 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, c'est le voyage, c'est physiquement aller voir comment ça s'est passé et comment une machine mise au point par des hommes, en l'occurrence évidemment des nazis allemands, appuyé quand même par la grande majorité du peuple allemand, il faut toujours se le rappeler, ont exterminé. Quand vous arrivez à Birkenau, plus qu'à Auschwitz, Auschwitz c'était l'état-major du camp qui était là-bas. À Birkenau, c'est là où, si vous voulez, la machine exterminée, d'abord gazée et ensuite brûlée. Eh bien, c'est pratiquement intact, illustré par des photos. Vous avez le portique du train qui arrivait. Il faut se souvenir quand même que 40 000 juifs hongrois ont été gazés et brûlés quasiment en septembre, octobre, novembre 1944, c'est-à-dire trois mois après le débarquement de Normandie. Les Américains n'étaient pas encore là et les Russes aussi. Et physiquement, vous avez des photos où vous voyez le Mengele, le fameux docteur Mengele, qui fait le tri avec la baguette. Et là, vous comprenez, et au bout de l'allée centrale, les fours crématoires qui ont été explosés par Rudolf Höss, qui était le dirigeant du camp. Et là, vous prenez conscience du martyr, si vous voulez, de tous ces gens qui ont été, qui arrivaient, femmes, enfants, tous les enfants, quasiment, et les adultes, bien sûr.
La nécessité d'être sur place, au-delà de la communication, au-delà de tous les mots et de toutes les cérémonies, Mickaël Darmon.
Oui, il faut aussi noter que parmi les chefs d'État qui se sont exprimés, il n'y en avait qu'un petit nombre qui était amené à pouvoir parler. Et parmi eux, il y a eu le président français, ce qui était quand même une marque, on va dire, de distinction pour le président français, Emmanuel Macron, dans cette cérémonie. Ce qui est également frappant, c'est à quel point il y a cette modernité, cette actualité toujours entretenu notamment par le chef du gouvernement israélien de cet événement horrible hein, qui a été donc l'extermination des juifs en Europe et son impact, puisqu'il veut aussi toujours justifier la politique qu'il mène actuellement, notamment contre l'Iran, en disant nous sommes toujours à la veille d'une extermination, nous sommes toujours au fond en danger. Ce qui est paradoxal, puisqu'on sait qu'Israël est quand même un pays qui possède l'arme nucléaire et qui aujourd'hui est fort, qui est considéré comme fort dans la région, mais il y a quand même cette phraséologie toujours de l'extermination qui peut arriver et qui parfois est un peu instrumentalisé sur le plan politique.
Alors c'est ce que Emmanuel Macron a laissé entendre hein, très clairement. En fait, un double discours encore aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Typiquement, le en même temps, on décrypte ça dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix et vos interventions en direct. N'hésitez pas à poser vos questions, ça se passe au 39-21 avec autour de vous Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Et à Jérusalem, une commémoration de la Shoah avec le dossier iranien en arrière-plan. On a parlé du devoir de mémoire dans cette première partie. On a commencé à évoquer cet arrière-plan, donc le dossier iranien, parce que Benjamin Netanyahou a pris la parole. La menace nazie, Mickaël Darmon le disait, la menace nazie d'antan porte aujourd'hui un autre nom, celui de l'Iran. Et Emmanuel Macron a fait un discours en deux temps, en rappelant aussi la menace iranienne, mais aussi en précisant bien qu'il ne s'agissait pas de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines, car tous ceux qui sont tombés nous obligent à la vérité, entre autres.
Oui.
Alors, mais Charles Villeneuve, allons-y.
Oui, mais il a dit aussi, à l'adresse de ceux qui doutent beaucoup de la fermeté de la France sur le dossier iranien et leurs efforts pour se doter de l'arme atomique, il a dit « nous serons intraitables », parlant de la France, « sur le nucléaire iranien, la France est attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire et aussi à éviter toute escalade militaire, où que ce soit dans la région ». Bon, ça rejoint ce que la partie du discours,
ah oui,
justement, où il critique. Pourquoi ? Parce que la France s'est mise en avant, si vous voulez, sur le plan de la négociation avec l'Iran pour essayer de les ramener dans ce que prévoit l'accord nucléaire de 2015. Et évidemment, on sait que ça a échoué pour l'instant, mais lui, si vous voulez, considère qu'il faut y revenir et ne pas aller provoquer les Iraniens, dont certains ont déclaré qu'un jour ou l'autre, l'Iran réduirait en cendres Israël.
Donc, on voit, enfin, on entend, Catherine Ney, ce discours, et vous l'avez dit Charles, d'une certaine manière en deux temps de la part d'Emmanuel Macron, avec une première lecture et une deuxième.
Sa première lecture, enfin, la deuxième lecture, c'est que c'est une réponse au discours de Netanyahou
et de Mike Pence aussi.
Et de Mike Pence et des Américains qui se sont retirés de l'accord nucléaire en 2018. Et c'est vrai qu'il y a une pression de Netanyahou pour que les signataires de l'accord avec l'Iran se retirent et fassent de même. Or, pour l'instant, les Européens soulignent la nécessité de respecter l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, il y a une vraie différence parce que alors, les Israéliens sont persuadés qu'un jour, l'Iran aura l'arme nucléaire et qu'il pourrait l'anéantir et que s'il y avait un nouvel holocauste, il ne pourrait venir que de l'Iran. Ce dont les Américains sont persuadés. Par exemple, ce que croit aussi le président Trump, et c'est pour ça qu'il a multiplié les sanctions. Bon. Voilà. Mais si on entre là dans cette... Il n'y a pas de paix possible, il faut aussi arriver à négocier avec les Iraniens, venir à... Est-ce qu'il est possible de ramener une paix au moins en parole en ce moment avec les Iraniens, dont voilà, c'est ce que
les
je cherche.
Les empêcher de nouveau se mettre en capacité de se doter de l'arme nucléaire. Il faut se rappeler simplement, un petit mot de la doctrine Begin, c'est-à-dire personne dans la région ne doit détenir une arme nucléaire, sous-entendu, sauf nous. Bien sûr.
Juste aussi, pardonnez-moi, mais toujours en restant sur ce dossier, Emmanuel Macron qui dit, Mickaël Darmon, qu'il veut lutter davantage contre l'antisémitisme, on le disait en première partie, et qui souhaite un procès pour Sarah Halimi. C'est la première fois qu'il y a là, pour le coup, les mots formulés par le président de la République sur ce cas qui a beaucoup divisé, hein, et surtout beaucoup fait réagir.
Oui, il a rappelé ce matin, lorsqu'il s'était exprimé devant la communauté française, hein, donc à Jérusalem, qu'il était le garant de l'indépendance de la justice en France et qu'il reconnaissait comme point très important, et il a souligné cela, qu'il avait été reconnu que c'était un acte donc à vocation antisémite. Ensuite, bien sûr, il se range du côté de ceux qui veulent un procès. Cette émotion, on le sait, a été extrêmement forte. La colère également, et bien évidemment, une très grande sensibilisation sur ce sujet de la part des Israéliens. Ce qui est quand même frappant à la fin finalement de ce voyage très particulier, très hybride au fond, qui était ni un voyage politique, ni un voyage totalement d'État, la découverte de la situation israélo-palestinienne, c'est vrai que c'est le pourquoi de ce voyage. On sent bien que ça a été uniquement fait d'abord autour de la commémoration donc à Yad Vashem, et qu'ensuite on a raccroché de manière assez artificielle, et c'est un petit peu ce qui se dit dans les milieux diplomatiques ce soir et même du côté de l'Élysée, on a raccroché un peu des thématiques un peu habituelles avec les discours un peu classiques.
Mais est-ce que c'est pas habituel
du Quai d'Orsay?
Est-ce que c'est pas habituel dans
peut-être
ce type de commémoration?
Aurait-il mieux valu construire une vraie visite dédiée aux enjeux de la région, à la fois du côté israélien et palestinien, mais là cette mémoire, ce voyage de mémoire politique ou consacré à la politique de la mémoire laissera une marque hybride avec en plus l'happening de la vieille ville hier.
De la vieille ville.
Oui, mais c'est l'occasion qui fait le larron.
On s'arrête sur cette partie aussi. Juste, je rappelle, le procès pour le meurtre de Sarah Halimi, dont le suspect a été déclaré pénalement irresponsable, et donc la volonté affichée par Emmanuel Macron quand même aujourd'hui. On se parle dans un instant, les grandes voix. On va aller sur les retraites, puisque demain, c'est en Conseil des ministres.
Le débat des grandes voix, c'est jusqu'à 19h dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix, et ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
On y est, le projet de loi à retraite sera présenté au Conseil des ministres demain avant le rendez-vous au Parlement début février et conférence de financement lancée le 30 janvier. Édouard Philippe l'a dit ce soir à La Croix, on est au 47e jour de grève sur le terrain et on a Frédéric qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. On vous écoute.
Oui, ben je suis assez dubitatif en fait par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que cette réforme a été annoncée. Je pense franchement qu'on a redéfini le terme d'enfumage à grande échelle. Clairement. Ouais, oui, je pense sincèrement. Je me suis beaucoup intéressé à ça parce que je suis cadre moi-même, et donc je me rends compte que on se fait tous arnaquer. Et en plus, ils le font avec le sourire. C'est-à-dire que j'ai un peu travaillé le sujet parce que je suis un peu curieux. Et en fait, je me rends compte que, comme certains intervenants disaient, c'est bâclé. Enfin, il y a une espèce d'amateurisme. C'est mauvaise communication, mauvaise préparation. Le budget n'est pas bouclé. Alors on vous pond une conférence de financement qui ne donnera rien, puisqu'en fait, on finit par se dire que c'est déjà fait finalement. Et ce qui moi me choque particulièrement finalement, c'est cette histoire avec les hauts salaires. Je me suis intéressé au sujet et je me rends compte qu'on se fait arnaquer.
Eh ben voilà,
totalement.
Au global, vous êtes Frédéric donc clairement contre, clairement déçu et clairement encore, j'allais dire sur votre faim quant au détail, quant à la valeur du point par exemple, ça pourrait être le béaba, la valeur du point on sait toujours pas, les baisses de cotisations, on sait pas vraiment non plus, Catherine Ney.
Comment on peut s'engager sur la valeur du point d'ici 10 ou 20 ans, quand on ne saura pas dans quel état est l'économie de la France, la croissance, comment peut-on prendre un engagement? Ça vaut rien, quoi. Non, mais je crois que là, ce que dit notre auditeur,
Frédéric,
est très intéressant, qui correspond tout à fait au sondage actuel, qui est qu'aujourd'hui, 61% des Français sont pour le retrait de la réforme. Parce que chacun a des degrés divers, n'est pas rassuré par la réforme, pense qu'elle a été mal expliquée, mal bâtie, que c'était une idée comme ça du président de faire une réforme que n'auraient pas fait les autres, donc qu'il serait plus fort que les autres. Et on s'aperçoit que touché à ça, d'ailleurs, c'était à chaque fois Rocard disait, mais on a de quoi faire battre et tuer et faire tomber je ne sais pas combien de gouvernements. Mais là, en ce moment, voilà, on se demande comment ça va se terminer. Parce que là, on a l'impression que que la contestation
ne s'apaise pas du tout. C'est ce qu'on disait Charles il y a quelques jours. Ça se transforme, ça évolue, ça mute. Oui. C'est parfois une forme de guérilla urbaine. Il y a des coupures de courant comme ça, sauvages, etc.
Et puis il y a de la créativité. Les avocats jettent leurs robes.
Nouvelle mobilisation, 7e samedi.
Oui, voilà. Et puis, les égoutiers leurs bottes, les pompiers font du sitting par terre. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. C'est une espèce de généralisation de l'hostilité à la réforme. Alors, comment on arrive à calmer le jeu ? Je veux dire, c'est... Bon, je veux dire, ça, personne ne le sait, là.
Alors, ouais. Une minute chacun pour conclure, ouais. Charles et Michael. Ouais.
Moi, je trouve que, je ne sais pas si Frédéric fait partie de cette écrasante majorité des salariés du privé, qui ne sont pas descendus dans la rue, qui n'ont pas fait grève, mais qui, pour autant, ont de la sympathie pour ceux qui ont fait grève et ceux qui protestent contre cette réforme qui, pour l'instant, n'est pas bouclée et elle est bâclée en même temps, puisqu'on ne sait pas si sur le plan financier. Mais il y a une chose aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ces salariés du privé, ils se demandent si finalement ça réussit, ben ça leur profitera. Si ça réussit pas, ben ils verront. Sauf que il y a la détermination du Premier ministre et du Président de la République. Et notamment qui ont relooké complètement l'âge d'équilibre à 64 ans avec cette fameuse conférence financière proposée par la CFDT. Mais on ne connaît pas la véritable marge de manœuvre de la CFDT.
Mais le problème, c'est quoi ? C'est Michaël Darmon. On n'était pas dans une négociation véritable depuis le début sur cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle va laisser comme trace ? Et est-ce qu'elles ne vont pas être profondes ? Ça va être des stigmates quand on regarde et quand on entend Charles Villeneuve, Catherine, et qu'on voit ce qui se joue encore.
Oui, d'ailleurs, il faut savoir qu'au gouvernement, on est assez conscient du fait que cette séquence, cette période va laisser des traces dans la société, que la société est encore en colère et que très certainement cela aura un impact sur les urnes, dans les urnes, aux élections municipales. Même si on dit effectivement et on répète, et surtout du côté du pouvoir, que ce ne sont que des élections locales, elles donneront quand même la mesure de ce qui s'est passé. À côté de cela, le gouvernement tire une certaine... C'est vrai, peut-être qu'il sera encore plus en difficulté, mais c'est vrai qu'à côté de cela, le gouvernement tire aussi une forme de satisfaction d'avoir tenu, d'avoir fait passer une réforme, d'avoir amené cette réforme quand même au Conseil des ministres. Et cela aussi,
On s'arrête là. Merci à vous. On suivra ça demain, Conseil des ministres. Et puis donc cette date du 30 pour la conférence de financement. Merci beaucoup les grandes voix. Merci à vous.
Europe 1.
Suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est le journal de Sébastien Krebs. La une, l'inquiétude autour du coronavirus. Trois villes chinoises placées en quarantaine. Le point complet, c'est à suivre.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Europe 1.